brothers and sisters.
Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue ce soir à la veillée du département d'éducation de l'Église pour les jeunes adultes. Nous sommes réunis dans leur Mayotte Center du campus de l'Université Brigham Young à Provo, en Utah, et dans des centres de pieux et bâtiments de l'Institut de plusieurs pays. Je suis John Livingstone, président du deuxième pieu de jeunes adultes seuls d'OREM. Nous souhaitons la bienvenue ce soir à Jay-In Jensen de la présidence des 70, et nous sommes reconnaissants que Sœur Jensen l'accompagne ce soir. Nous vous présenterons un peu plus tard Frère Jensen, qui sera l'orateur de ce soir. Nous saluons la présence d'autres autorités générales et 70 d'interrégions, de membres du Bureau de l'éducation de l'Église et de responsables de l'Université. En outre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur l'estrade des administrateurs du DE, des séminaires et instituts de religion, ainsi que des présidents de pieux de jeunes adultes seuls de Utah Valley et d'étudiants mariés de Provo avec leurs femmes. Cette veillée est diffusée par satellite et par Internet aux jeunes adultes en âge d'aller à l'université qui vivent en Amérique du Nord et dans de nombreuses autres régions du monde. Elle est interprétée en plusieurs langues pour être diffusée et distribuée en d'autres endroits. Nous vous rappelons que le 4 mars 2012, Quentin L. Cook, du Collège des Douze Apôtres, sera l'orateur de la veillée du DE. Zachary Zwallen a joué le prélude à l'orgue et accompagnera le cantique que chantera l'Assemblée. Nous demandons à l'Assemblée de chanter le cantique d'ouverture « Tout au sommet des monts », cantique numéro 4, sous la direction de Tessara G. Lamb, puis la prière d'ouverture sera faite par Alexander J. Jensen. Après la prière d'ouverture, le chœur de l'Institut de religion d'Ogden chantera la première prière de Joseph Smith. Il sera dirigé par Alan T. Sanders et accompagné par Edward Boston.
Notre cher Père Céleste, nous te remercions de pouvoir nous réunir aujourd'hui
pour en apprendre davantage sur ton évangile. Nous te demandons de bénir les missionnaires dans le champ de leur mission pour qu'ils puissent trouver les personnes prêtes à accepter ton évangile. Et nous te demandons de nous accorder ton esprit pour qu'il nous réconforte et nous confirme ce qu'on va nous enseigner aujourd'hui. Père, nous t'aimons et nous disons ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Thank you, Ogden Institute Choir.
Merci au chœur de l'Institut d'Ogden. Après le discours de Frère Jensen, le chœur interprétera ces mots d'amour. Il sera dirigé par Gerald Simon et accompagné par Melinda Martin. Ensuite, Corban Carlson fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter l'orateur de ce soir. Jay Ingensen sert actuellement comme membre de la présidence des 70 après avoir servi dans des présidences d'interrégions d'Amérique centrale et du Sud et dans différentes interrégions des États-Unis et du Canada. Frère Jensen a été appelé à servir à plein temps dans l'Église le 6 juin 1992, ayant été nommé au deuxième collège des 70 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il a été appelé au premier collège des 70 le 1er avril 1995. Avant son appel au collège des 70, il a été missionnaire dans la région du Texas et du Nouveau-Mexique, où il a œuvré parmi les hispanophones. Au sein du département d'éducation de l'Église, il a enseigné le séminaire, a écrit des manuels d'enseignement et a formé les futurs instructeurs du séminaire. Il a été président de la mission de Cali, en Colombie, de 1975 à 1978. Après sa relève, il est retourné au département d'éducation de l'Église, où il a travaillé comme directeur des programmes. Il a aussi travaillé quelque temps comme directeur de la formation au département missionnaire et comme directeur de la coordination des Écritures de l'Église. Il a obtenu une licence, une maîtrise et un doctorat de l'Université Brigham Young. Il est né à Mapleton, en Utah, sixième de 10 enfants. Il est marié à Lona Lee Child. Ils ont 6 enfants. Frère Jensen.
Thank you, Alex. Our grand...
Merci, Alex, notre petit-fils, pour cette belle prière. Sœur Jensen et moi sommes heureux d'être avec vous. Je remercie sincèrement le chœur, non seulement de la manière dont il a chanté, mais également de ceux qu'il a chantés. Les cantiques suscitent la présence de l'Esprit du Seigneur. Ils créent un sentiment de révérence et nous enseignent la doctrine du royaume. La tâche qui m'est confiée est très impressionnante et j'ai prié et je continue de prier pour que ce soit le Saint-Esprit qui nous instruise vraiment, comme Alex l'a demandé dans sa prière. Mon message s'intitule « Le don ineffable du Saint-Esprit », expression tirée de Doctrine et Alliance. Dieu vous donnera par son Esprit Saint, oui, par le don ineffable du Saint-Esprit, une connaissance qui n'a pas été révélée depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Peut-être reconnaîtrez-vous quelques réflexions d'un discours que j'ai prononcé à la conférence générale d'octobre 2010. Dans le temps qui m'est donné pour ce discours d'aujourd'hui, je vais les développer. L'importance du Saint-Esprit et le don ineffable qu'il est peuvent être soulignés par deux illustrations qui constituent chacune un message. La première illustration est tirée du Livre de Mormon, la deuxième d'un événement de l'histoire de l'Église. Quand Jésus-Christ a rendu visite aux gens du Livre de Mormon, il les a instruits, a béni leurs enfants, a institué la Sainte Cène, puis est parti. Les gens sont retournés chez eux et se sont efforcés toute la nuit d'en faire venir d'autres à l'endroit où il a dit qu'il leur apparaîtrait le lendemain. Du fait du grand nombre de gens, les 12 disciples les ont répartis en 12 groupes pour leur enseigner ce que le Seigneur leur avait enseigné la veille, puis ils ont prié. De toutes les choses pour lesquelles ils pouvaient prier, ils prièrent pour ce qu'ils désiraient le plus, et ils désiraient que le Saint-Esprit leur fût donné, mettant ainsi l'accent sur lui et son importance comme nulle part ailleurs dans les Écritures. Après leur prière et en réponse à leurs supplications, Néphi baptisa les disciples, après quoi le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils furent remplis du Saint-Esprit et de feu. Ils reçurent le témoignage convaincant de lui. Ensuite, le Sauveur leur apparut, et il arriva que Jésus s'éloigna un peu d'eux et se prosterna à terre, et il dit, « Père, je te remercie de ce que tu as donné le Saint-Esprit à ceux-ci que j'ai choisis. Père, je te prie pour que tu donnes le Saint-Esprit à tous ceux qui croiront en leurs paroles. » Je ne connais pas de message, de passage scripturaire qui exprime mieux combien le Sauveur pense que le Saint-Esprit est important. La seconde illustration provient des enseignements de Brigham Young. Les saints se trouvaient à Winter Quarters et se préparaient à partir dans l'Ouest au printemps. Joseph Smith était mort depuis plus de 2 ans et demi. Le président Young eut une vision, un songe, au cours duquel il conversa avec Joseph Smith, le prophète. En écoutant, relevez le nombre de fois où il souligne l'importance de l'Esprit du Seigneur. Je cite, « Frère Joseph, les frères ont le grand désir de comprendre les principes de scellement. Et si vous avez un conseil à me donner, je serais heureux de le recevoir. » Joseph s'avança vers moi, et d'un air très sérieux mais aimable, il me dit, « Dites aux gens d'être humbles et fidèles, et de veiller à garder l'Esprit du Seigneur, et il les guidera comme il faut. Faites attention à ne pas rejeter la petite voix douce. Elle vous enseignera ce que vous devez faire et où vous devez aller. Elle produira les fruits du royaume. » Dites aux frères de garder le cœur ouvert à la conviction afin que lorsque le Saint-Esprit vient à eux, leur cœur soit prêt à le recevoir. Ils peuvent distinguer l'Esprit du Seigneur de tous les autres esprits. Il distillera de la paix et de la joie en leur âme. Il ôtera la méchanceté, la haine, la querelle et toute forme de mal de leur cœur. Ils ne souhaiteront rien d'autre que faire le bien, apporter la justice et édifier le royaume de Dieu. Dites aux frères que s'ils suivent l'Esprit du Seigneur, ils iront dans la bonne direction. Veillez bien à dire aux gens de garder l'Esprit du Seigneur. Ils se trouveront tout comme ils ont été organisés par notre Père Céleste avant qu'ils viennent au monde. Notre Père Céleste a organisé la famille humaine. Joseph me montra alors le modèle selon lequel ils étaient au commencement. Cela, je ne peux le décrire, mais je l'ai vu, et j'ai vu où la prêtrise a été emportée, quand elle a été ôtée de la terre et comment elle doit être reliée afin qu'il y ait une chaîne parfaite de notre père Adam jusqu'au dernier de ses descendants. Joseph répéta, « Dites aux gens de veiller à garder l'Esprit du Seigneur, à le suivre, et il les guidera comme il faut. » Fin de citation. Ce récit non seulement souligne l'importance du Saint-Esprit et de la recherche de son influence, mais il m'a aussi fait penser aux principes et aux vérités suivants. L'Esprit du Seigneur cherche à instaurer l'ordre, en particulier à organiser une famille éternelle par l'ordonnance du scellement au Temple. L'adversaire cherche à désorganiser et à détruire en particulier les familles, comme le montre aujourd'hui l'avortement, le divorce ou le mariage avec des gens du même sexe. Je me demande si l'habitude grandissante parmi votre groupe d'âge de différer le mariage ne contribue pas à désorganiser les familles. La révélation et la connaissance sont parvenues par le don ineffable du Saint-Esprit en réponse à une question, comme c'est souvent le cas. De ces deux illustrations, je conclus que le Saint-Esprit est vital et que nous devons rechercher sincèrement sa compagnie, sa direction et ses dons, car il est véritablement un don ineffable. Je vais me concentrer sur trois thèmes. Les missions du Saint-Esprit, les conditions à remplir pour recevoir le Saint-Esprit, et enfin la manière de reconnaître les directives du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parfois appelé l'Esprit, et est correctement appelé l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur et le Consolateur. Le Saint-Esprit a certaines missions ou responsabilités. J'en mentionnerai quatre. Première mission, il témoigne du Père et du Fils, ou les révèle. Le Saint-Esprit révèle vraiment le Père et le Fils, ou témoigne d'eux. Je l'ai vécu quand j'étais petit garçon, mais je ne pouvais pas le formuler alors. J'ai grandi dans la foi en Dieu, dans un merveilleux foyer de saints des derniers jours. J'ai été baptisé, j'ai reçu le Saint-Esprit à l'âge de 8 ans. Je n'ai jamais douté de l'existence du Père et du Fils. Dans notre famille, on les acceptait pleinement, on les adorait et on avait une grande foi en eux. Comme le montraient nos prières familiales régulières, le temps qu'on prenait pour bénir chaque repas, la soirée familiale, la lecture des Écritures, surtout le Livre de Mormon, l'assistance à l'Église, l'obéissance aux commandements et tout ce que nous faisons d'autres comme saints des derniers jours. Personnellement, je ne pouvais pas m'appuyer sur les Écritures pour enseigner le principal rôle du Saint-Esprit, qui est de révéler Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Mais avec foi, je comprenais bien le principe. Pendant ma mission, J'ai commencé à étudier les Écritures tous les jours. Ma connaissance scripturaire, mon témoignage et ma foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ ont été fortifiés par la doctrine divine, par des expériences spirituelles et par la révélation personnelle. Je sais personnellement que ces paroles du Sauveur sont vraies. Et le Saint-Esprit témoigne du Père et de moi. Et le Père donne le Saint-Esprit aux enfants des hommes à cause de moi. Seconde mission, il témoigne de toute vérité. Le Saint-Esprit révèle la vérité de toute chose. Les personnes qui recherchent sincèrement et lisent le Livre de Mormon et prient et méditent avec une intention réelle pour en connaître la véracité ont la promesse qu'ils la sauront et par le pouvoir du Saint-Esprit, ils peuvent connaître la vérité de toute chose. Alma a invité les pauvres chassés par les Zoramites à faire une expérience avec la parole. Il a souligné précisément que les paroles vraies implantées dans un cœur réceptif commenceraient à gonfler dans leur sein. Il a ajouté, « Et lorsque vous sentirez ces mouvements de gonflement, vous commencerez à dire en vous-même, il faut nécessairement que ce soit une bonne graine ou une bonne parole, ou que la parole soit bonne. » Ce qui fait qu'il y avait trois moyens par lesquels il connaîtrait la vérité. Il commence à m'épanouir l'âme, ce que l'on voit chez les personnes qui ont cherché sincèrement la vérité, aux larmes, à un soupir, à un hochement de tête ou à un autre mouvement du corps qui montre que le Saint-Esprit a implanté des paroles vraies dans leur cœur. Deuxièmement, elle commence à m'éclairer l'intelligence. Comme l'indiquent des commentaires, comme c'est logique, je l'ai toujours cru, ou la question, est-ce que vous dites que... Troisièmement, elle commence à m'être délicieuse. Comme on le voit chez les amis de l'Église qui disent par exemple « S'il vous plaît, dites-moi plus » ou « Où est située votre Église ?» ou encore « Vous ne voulez pas rester encore un peu et nous en dire plus ?» ce qui indique qu'ils ont faim et en veulent davantage. Le témoignage de Brigham Young illustre ces vérités. Je cite « Si tout le talent, tout le tact, toute la sagesse et tout le raffinement du monde m'avaient été envoyés avec le Livre de Mormon et avaient déclaré la véracité avec la plus grande des éloquences terrestres, entreprenant de le prouver par la science et la sagesse du monde, cela aurait été pour moi comme la fumée qui ne s'élève que pour disparaître. Mais quand j'ai vu un homme sans éloquence ni talent pour parler en public, qui ne pouvait dire que « je sais » par le pouvoir du Saint-Esprit, que le Livre de Mormon est vrai, que Joseph Smith est un prophète du Seigneur. Le Saint-Esprit qui émanait de cet homme a éclairé mon intelligence, et la lumière, la gloire et l'immortalité sont apparues devant moi. J'en étais été encerclé, rempli, et j'ai su par moi-même que le témoignage de cet homme était vrai. Troisième mission, il sanctifie. Le mot « sanctifier » vient du latin, et a deux racines, sanct, qui signifie saint, et facere, qui signifie faire, c'est-à-dire littéralement rendre saint. Dans notre emploi religieux du mot, sanctifier signifie simplement purifier et débarrasser du péché. Message essentiel de l'Évangile rétabli. Bien sûr, l'Évangile est le plan de salut de Dieu, rendu possible par l'expiation de Jésus-Christ. Il comprend les vérités ou lois, alliances et ordonnances nécessaires pour permettre à l'humanité de rentrer en la présence de Dieu. Le rôle sanctificateur du Saint-Esprit est pertinent dans le contexte de la définition que le Sauveur a donnée de son Évangile dans 3 Néphi 27, versets 13 à 20. Il a conclu par ce verset important. « Repentez-vous toutes les extrémités de la terre et venez à moi, et soyez baptisés en mon nom, afin d'être sanctifiés par la réception du Saint-Esprit, afin de vous tenir sans tache devant moi au dernier jour. » Le Saint-Esprit est le sanctificateur. Et grâce à lui et à l'expiation infinie, nous pouvons être sans tache et purs. Dans différents appels où j'ai détenu des clés de la prêtrise en tant que juge en Israël, en particulier en tant qu'évêque, j'ai été témoin de l'effet purificateur, sanctificateur du Saint-Esprit. Une expérience dont les éléments en représentent d'autres se détache particulièrement dans mon esprit. Un dimanche matin, un jeune homme d'une vingtaine d'années est venu me voir, moi, son évêque. Pendant la semaine, sa petite amie et lui avaient laissé leurs émotions et leurs passions dépasser les limites que le Seigneur a établies. J'ai écouté dans la prière, nous avons lu ensemble les Écritures ainsi que des paroles de prophètes des derniers jours. Je lui ai donné des lectures à faire, et restreint comme il se devait ses droits dans l'Église, lui ai fixé des rendez-vous et me suis agenouillé et ai prié avec lui. À chacun de nos entretiens ultérieurs, il m'a fait rapport de ses lectures, en particulier du Livre de Mormon. Et l'angoisse qu'on lisait sur son visage et dans sa personne a cédé la place à la foi en Dieu et en son Fils, à l'espoir et à l'optimisme, à une ferme résolution et à un changement de cœur. Petit à petit, il a progressé spirituellement. Quand il s'est eu écoulé suffisamment de temps et sous la direction de l'Esprit, j'ai levé les restrictions qui lui étaient imposées et l'ai autorisé à reprendre la Sainte Cène. Tandis que j'étais assis sur l'estrade pendant la réunion de Sainte Cène, mon regard a été attiré vers lui quand le pain puis l'eau sont parvenus à s'arranger. J'ai vu une lumière sanctificatrice de la paix et du pardon. Les paroles que le Sauveur a adressées à Joseph et Oliver Cowdery après qu'ils aient pris la Sainte Cène me sont venues à l'esprit. « Voici, vos péchés vous sont pardonnés. Vous êtes purs devant moi. Levez donc la tête et réjouissez-vous. » Comme Joseph Smith et Oliver Cowdery, ce jeune homme a reçu la rémission de ses péchés par le feu et le Saint-Esprit. Tout comme ce jeune homme a ressenti le pouvoir sanctificateur du Saint-Esprit, de même, vous pouvez, vous aussi, connaître la libération du péché chaque sabbat. Quatrième mission, instruire. On pourrait dire bien des choses sur l'apprentissage et l'enseignement. Je les résume simplement en disant que le Saint-Esprit est le véritable enseignant. Dans les 10 versets de Doctrine et Alliance 50, 13 à 22, les versets impairs sont des questions. Les versets pairs sont les réponses du Seigneur. Tandis que je lis les versets 13 et 14, relevez deux rôles et ce que chacun fait. Moi, le Seigneur, je vous pose donc cette question. À quoi avez-vous été ordonné pour prêcher mon évangile par l'Esprit, oui, par le Consolateur qui a été envoyé pour enseigner la vérité. Le rôle du Saint-Esprit est d'enseigner. C'est lui l'instructeur. Mon rôle n'est pas de couvrir de la matière ni de finir la leçon, mais en tant que détenteur de la prêtrise, je dois prêcher, enseigner, exposer, exhorter, avertir et inviter par l'Esprit. Mon rôle est d'être un instrument en créant une atmosphère où l'Esprit puisse faire ce qu'il fait dans le processus divin décrit au verset 22 de la section 50. C'est pourquoi celui qui prêche et celui qui reçoit se comprennent et tous deux sont édifiés et se réjouissent ensemble. Néphi a conclu ses écrits et exprimé ses manques ainsi que sa compréhension correcte du rôle du Saint-Esprit. Et maintenant, moi, Néphi, je ne peux écrire toutes les choses qui étaient enseignées parmi mon peuple, et je ne suis pas non plus puissant à écrire comme je le suis à parler. Car lorsqu'un homme parle par le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit porte ses paroles au cœur des enfants des hommes. Notez la préposition « au » et non « dans ». De fait, de notre libre arbitre, il porte les paroles à notre cœur. Si nous l'invitons, il les portera dans notre cœur, comme cela est enseigné dans l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je vous témoigne qu'il a d'autres responsabilités et missions importantes. Il est le consolateur. Il restreint ou contraint. Il guide, il avertit et il réprimande. Je vous invite à les étudier par vous-même. Je vais parler maintenant des conditions à remplir pour recevoir le Saint-Esprit. Les conditions à remplir pour recevoir le Saint-Esprit sont simples. Je n'en mentionnerai que trois. Premièrement, le désirer, qui selon moi inclut demander, chercher, frapper. Deuxièmement, être digne. Et troisièmement, être alerte, à la fois spirituellement et physiquement. On trouve souvent les mots désirer, demander, chercher et frapper ensemble dans les Écritures. Et ils sont essentiels pour recevoir le Saint-Esprit et ses dons ineffables. Alma a enseigné que Dieu accorde aux hommes selon leurs désirs. J'attire votre attention sur ces paroles de Doctrine et Alliance 11, une révélation du Seigneur à Iron Smith. Le mot désir et ses dérivés y figurent 8 fois. Peut-être l'un des mieux connus et des plus souvent cités est celui du verset 21. Il réunit chercher, désirer, la parole et l'esprit, avec pour résultat le pouvoir de Dieu. Ne cherche pas à annoncer ma parole, mais cherche tout d'abord à obtenir ma parole, et alors ta langue sera déliée. Puis, si tu le désires, tu auras mon esprit et ma parole. Oui, la puissance de Dieu pour convaincre les hommes. La dignité. Pour avoir le don ineffable du Saint-Esprit, nous devons respecter les commandements. Je crois que vous savez quels mots offensent l'esprit, et je ne les mentionnerai pas. Une phrase de ma bénédiction patriarcale m'a guidé. Jay, préserve ton corps des tentations et des maux qui se présentent. Mène une vie pure et belle, car l'esprit de notre Père Céleste demeure dans des tabernacles purs. Il ne demeure pas dans des tabernacles impurs. Cela est corroboré dans le livre de Mormon. L'Esprit du Seigneur ne les préservait plus. Oui, il s'était retiré d'eux parce que l'Esprit du Seigneur ne demeure pas dans des temples qui ne sont pas saints. Être alerte physiquement et spirituellement. Nous vivons dans un monde très affairé où de nombreuses choses réclament à grand bruit notre temps et notre attention. C'est à dessein que nous recommandons la ponctualité aux réunions, en particulier à la réunion de Seine-Seine, pour écouter le prélude musical, nous préparer à avoir l'esprit et recevoir la révélation. Nous jeûnons, nous prions, nous méditons, nous allons au temple et nous apprenons à bien écouter et à bien observer. Président Joseph F. Smith illustre ce qu'est être physiquement et spirituellement alerte quand il reçoit la révélation que nous appelons la vision de la rédemption des morts qui se trouve dans Doctrine et Alliance 138. Le 3 octobre de l'an 1918, j'étais dans ma chambre à méditer sur les Écritures. Je réfléchissais au grand sacrifice expiatoire que le Fils de Dieu avait fait. J'imagine Joseph F. Smith assis sur une chaise, peut-être une chaise de bois, à une table, les Écritures devant lui avec une plume et du papier. Il n'était pas allongé sur un divan ni vautré dans un fauteuil. David O. McKay a souligné l'importance d'être spirituellement et physiquement alerte avec l'histoire de John Wells, ancien membre de l'épiscopat président dont le fils avait été tué par un accident de chemin de fer. Quelques jours après les obsèques, la mère qui était à la maison pleurait sa mort, spirituellement et physiquement alerte. Son fils lui apparut et lui dit que quand il s'était rendu compte qu'il était dans le monde des esprits, il avait d'abord essayé d'entrer en contact avec son père, mais n'avait pas pu, disant que son père était trop occupé au bureau. Dans beaucoup de nos réunions de formation des autorités générales, les présidents de l'Église et les apôtres nous ont rappelé de ne pas être si occupés à faire l'œuvre du Seigneur que les impressions spirituelles ne peuvent pas nous atteindre. Il m'est difficile d'enseigner comment reconnaître les directives, les indications et les incitations de l'esprit. Ces expériences sont personnelles et souvent conçues en fonction de l'individu et de la situation, comme je viens de l'illustrer. Il y a néanmoins quelques traits caractéristiques que j'ai remarqués personnellement et que d'autres m'ont appris. Le premier, la paix de l'esprit. Le Seigneur a enseigné à Oliver Cowdery en difficulté une grande leçon quand il lui a rappelé « N'ai-je pas apaisé ton esprit ?» Je crois que la paix de l'esprit que l'on reçoit est l'un des moyens les plus communs de reconnaître une directive provenant du Saint-Esprit. Les synonymes de paix sont sérénité, tranquillité, harmonie et quiétude. Ses contraires sont confusion, anxiété, distraction, excitation et manque d'harmonie. Nous employons souvent les expressions « cela me met mal à l'aise » ou « je ne me sens pas à l'aise ». Ces sentiments s'expriment dans le principe suivant, dans l'esprit et dans le cœur. Oui, voici, je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. Or, voici, c'est là l'esprit de révélation. J'ai appris de la première présidence et du Collège des Douze, ainsi que par expérience personnelle, que les révélations à l'esprit se manifestent souvent par des mots, des idées, voire des phrases, alors que les révélations au cœur sont des sentiments généraux associés à de la paix. On en trouve des illustrations instructives dans la vie d'Enos. Les versets 3 et 9 de son histoire décrivent un sentiment général par ces expressions. La joie pénétrait profondément dans mon cœur et je commençais à éprouver. Au verset 5 et 10, on trouve des phrases complètes, chacune introduite par « Et une voix parvint à mon esprit disant » et « La voix du Seigneur parvint encore à mon esprit disant » suivi de la réponse. La réception de sentiments dans le cœur et de réflexions dans l'esprit est enseignée de manière succincte dans ses paroles adressées à Hiram Smith dans la section 11. « Je te donnerai de mon esprit ce qui éclairera ton intelligence, ce qui remplira ton âme de joie, et alors tu connaîtras, ou par là, tu connaîtras toutes les choses que tu désires de moi. » Une autre façon est d'étudier les choses dans notre esprit. Une écriture souvent citée sur la manière de reconnaître la révélation et les murmures du Saint-Esprit est Doctrine et Alliance 9, versets 7 et 9. Tu dois l'étudier dans ton esprit, alors tu dois me demander si c'est juste. Et si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle en dedans de toi. Et c'est ainsi que tu sentiras que c'est juste. Mais si ce n'est pas juste, tu ne sentiras rien de la sorte, mais tu auras un engourdissement de pensée. Dallin H. Oaks a donné ce sage conseil. On peut avoir le grand désir d'être guidé par l'Esprit du Seigneur, mais pousser de manière mal avisée ce désir au point de vouloir être guidé en tout. Le désir d'être guidé par le Seigneur est une force, mais il doit s'accompagner de la compréhension du fait que notre Père Céleste laisse beaucoup de choix personnels à notre décision. Nous devons étudier la situation de notre esprit en faisant appel aux facultés de jugement que notre Créateur a placées en nous. Ensuite, nous devons prier pour recevoir des directives et agir en conséquence. Si nous les recevons, si nous ne les recevons pas, nous devons agir en fonction de notre bon sens. Frère Oaks continue, « Les gens qui persistent à demander des directives révélées sur des sujets à propos desquels le Seigneur a décidé de ne pas nous guider risquent de se fabriquer une réponse résultant de leur imagination ou de leurs préjugés, ou même de recevoir une réponse provenant d'une fausse révélation. » Fin de citation. Et le président Packer a enseigné avec sagesse, « Vous ne pouvez pas forcer les choses spirituelles. » Des mots tels que « obligé », »,« coercition », »,« contrainte », »,« pression », »,« exigence » ne décrivent pas les relations privilégiées que nous avons avec l'esprit. On ne peut pas plus forcer l'esprit à répondre qu'on ne peut forcer un haricot à germer ou un œuf à éclore avant son temps. On peut créer un climat qui favorise la croissance, qui nourrit et qui protège, mais on ne peut pas forcer ou obliger. On doit attendre la croissance. Une chaleur dans le sein. La phrase de la section 9. Concernant cette chaleur dans le sein, quand je suis rentré de la mission que j'ai présidée, j'ai été appelé à faire partie avec d'anciens présidents de mission d'un comité chargé de trouver des moyens d'améliorer le prosélytisme. Quelqu'un a fait une suggestion pour aider les missionnaires à avoir et à reconnaître la chaleur dans le sein, comme l'explique Doctrine et Alliance 9, 7 à 9. Le président du comité, membre du premier collège des 70 et ancien président de mission, a raconté une expérience qu'il avait vécue avec un membre du collège des 12 qui visitait sa mission. Durant la tournée de cette mission, le président a enseigné l'importance de ces trois versets. Après la réunion et en route pour la prochaine, le membre des 12 a fait remarquer qu'au cours des années, il avait rencontré des membres qui n'avaient jamais réussi à reconnaître une révélation par une chaleur dans leur sein, malgré beaucoup de jeûnes et de prières. Ils n'avaient pas compris que la chaleur dans le sein n'est pas liée à la chaleur physique, mais à une intensité de sentiment, à la paix de l'esprit et au sentiment éprouvé par le cœur, comme mentionné plus haut. Beaucoup se reconnaîtront peut-être dans les convertis du Livre de Mormon qui avaient été baptisés de feu et du Saint-Esprit et ne le savaient pas. Dans une révélation donnée à Hiram Smith, nous trouvons quatre manières de reconnaître comment l'Esprit nous guide. Place ta confiance en cet Esprit qui conduit à faire le bien, oui, à agir avec justice, à marcher dans l'humilité, à juger avec droiture. Et c'est là mon esprit. Gordon B. Hinckley a demandé, « Comment connaissons-nous les choses de l'esprit? Comment savons-nous qu'elles viennent de Dieu? À leurs fruits. Si elles produisent la progression et le développement, si elles produisent la foi et le témoignage, si elles produisent une meilleure manière de faire les choses, si elles mènent à la piété, alors elles sont de Dieu. Si elles nous détruisent, si elles nous entraînent dans les ténèbres, si elles nous rendent perplexes et nous inquiètent, si elles font perdre la foi, alors elles sont du diable. Enfin, un sujet peut occuper votre esprit et s'impose continuellement à vous. Cette vérité contenue dans l'épître de Joseph Smith sur le baptême pour les morts est une autre façon dont l'esprit se manifeste. Il semble que ce sujet occupe mon esprit et soit celui qui s'impose le plus à mes sentiments. Les impressions qui persistent jusqu'à ce que nous agissions sont réelles et sacrées. Pendant que je présidais la mission de Cali, en Colombie, j'étais en train d'étudier les Écritures, tard un soir, après 22 heures. La pensée m'est venue de téléphoner à un frère missionnaire. J'avais eu un entretien avec lui récemment, et je savais qu'il avait eu quelques difficultés, et donc j'ai repoussé l'idée. L'impression est revenue, et employant le même raisonnement, je l'ai de nouveau repoussée. Elle est revenue une troisième fois, et finalement j'ai reconnu l'impression pour ce qu'elle était, et j'ai téléphoné au frère. Son compagnon, qui était couché, a répondu. J'ai demandé à parler au frère missionnaire, que je m'étais senti poussé à appeler. Il a dit qu'il n'était pas dans son lit. Je lui ai dit « Posez le téléphone et trouvez-le ». Il a trouvé de l'autre côté du patio, en train de parler à une jeune fille qui avait emménagé ce jour-là. Les missionnaires ont déménagé le lendemain. Pour conclure, je rapporte une expérience importante et un sage conseil de Wilford Woodruff. Il a raconté qu'au cours de ses voyages, Joseph Smith, Brigham Young et d'autres des premiers dirigeants de l'Église lui étaient apparus. Une autre fois, Brigham Young lui était apparu et a déclaré ce qui est retranscrit ainsi par Wilford Woodruff. Quand nous sommes arrivés à notre destination, j'ai demandé au président Young s'il allait nous prêcher l'Évangile. Il a dit « Non ». J'ai fini mon témoignage dans la chair, je ne parlerai plus à ce peuple. Mais a-t-il dit, je suis venu pour vous voir, je suis venu pour veiller sur vous et pour voir ce que le peuple fait. Puis dit-il, je veux que vous enseigniez le peuple et je veux que vous suiviez cette recommandation vous-même, qu'il doit œuvrer et vivre de manière à obtenir l'Esprit Saint, parce que sans cela, vous ne pouvez pas édifier le royaume. Sans l'Esprit de Dieu, vous courez le risque de marcher dans les ténèbres et de ne pas vous acquitter de votre appel d'apôtre et d'ancien de l'Église et du royaume de Dieu. Je prie pour que vous désiriez, avec plus de ferveur, être digne du don ineffable du Saint-Esprit, que vous reconnaissiez ces murmures et que vous croissiez dans votre capacité à les reconnaître, que comme le dit la section 101, que vous soyez calme et connaissiez le Père et le Fils par le Saint-Esprit. et que vous exprimiez votre reconnaissance pour lui et ses directives, car exprimer sa gratitude invite davantage l'Esprit. Par le don ineffable du Saint-Esprit, je sais que Joseph Smith est le prophète du rétablissement et que le Livre de Mormon est la clé de voûte de notre religion. Je sais que le Père et le Fils existent. Ils sont réels. Je répète, ils sont réels. Le Saint-Esprit témoigne de toute vérité. Il sanctifie et enseigne. Nous sommes dirigés aujourd'hui par des prophètes, des voyants et des révélateurs, de vrais apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Ces 15 hommes sont guidés par le don ineffable du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Dear Father in heaven,
notre cher Père Céleste, nous venons devant toi à la fin de cette réunion pour te remercier de l'occasion que nous avons eue de nous réunir et de ressentir ton esprit. Nous sommes reconnaissants de cette occasion d'écouter Frère Jensen et nous prions pour que nous trouvions des moyens de davantage recevoir ton esprit dans notre vie. Nous sommes reconnaissants d'être membres de ton royaume en ces derniers jours. Et nous prions pour que tu diriges les missionnaires vers les personnes qui recherchent la vérité. Nous t'aimons beaucoup et nous sommes reconnaissants à ton Fils bien-aimé pour son sacrifice pour nous. C'est là notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.